L'Officine Universelle Bully présente Rituel historique de beauté. Épisode 3. Justine va au bal. Une jeune paysanne prospère du Massif central se prépare pour le bal d'Aurillac, France, 1863. Justine quitta les tables et se dirigea d'un pas pressé vers la ferme familiale. La journée avait été bien longue, comme toutes les journées à la ferme. Se réveiller à l'aube et s'occuper sans relâche des vaches, de la traite et de la buanderie. Ce qui lui avait permis de tenir ce jour-là était son excitation totale à l'idée du bal de ce soir. Tous les ans, le 25 mai, à Aurillac, avait lieu une fête pour célébrer le début de la transhumance, moment où les vaches sont en partance vers les pâturages. Comme ses parents et ses grands-parents avant elle, Justine était pleine d'espérance pour la saison à venir. Elle espérait que, grâce à l'herbe des prairies fleuries, leurs vaches produiraient le meilleur lait cette année, et par conséquent le meilleur salaire de la région. Toutes ces attentes étaient célébrées collectivement lors de cette fête annuelle. La perspective de rencontrer des gens d'autres villages était palpitante. Si palpitante qu'au premier son de cloche marquant 16 heures, elle ôta prestamment son tablier et pressa la dernière vache vers sa place à l'étable. Justine rentra à la maison pour prendre, à titre exceptionnel, un bain et se préparer pour les festivités. Sa tête bouillonnant de tous les conseils de beauté qu'elle avait collectés ces dernières semaines auprès d'Henriette, son amie qui travaillait à la pharmacie d'Aurillac. Même dans les régions rurales, il existait des pharmacies et des marchés qui fournissaient des produits de beauté préparés ou des ingrédients pour les faire soi-même. Avec le développement en France du réseau ferroviaire qui rendait les déplacements plus faciles, des vendeurs itinérants parcouraient également les régions et localités moins peuplées. À la moitié du 19e siècle, les magazines féminins étaient distribués dans les villes et quelques-uns arrivaient jusqu'en province. Il y avait aussi un guide de beauté écrit par l'artiste Lola Montez en 1858. Ouvrage assez populaire, et si les habitantes des régions rurales ne pouvaient pas encore en avoir une copie, les secrets de beauté du livre se propageaient de bouche à oreille. Prendre un bain à domicile n'était pas une pratique courante pour la plupart des Européens jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle. Et même alors, on prenait en général des bains une fois par semaine, voire toutes les deux semaines, étant donné l'effort à déployer pour chauffer l'eau et remplir la baignoire, les familles prenaient souvent le même bain, chacun à son tour, en commençant par le chef de famille, généralement le père, et en terminant par le plus jeune enfant. Le pain de savon n'était pas non plus couramment employé à l'époque, bien qu'il existât depuis le Moyen-Âge plusieurs centres de production de savon en France, en Italie et en Espagne. Il fallut attendre la moitié du 19e siècle, avec l'essor industriel, pour que les pains de savon deviennent d'usage courant. La plupart des savons français venaient de Marseille et étaient fabriqués à base d'huile d'olive ou d'autres huiles végétales, de cendres alcalines issues de plantes marines et de l'eau de mer. Ils étaient bien plus doux que l'habituel savon à la soude. Les hydratants pour le corps n'étaient pas souvent utilisés, mais on pouvait en fabriquer à partir d'un mélange de glycérine et d'eau de rose. On employait lors du bain le son d'avoine pour ses vertus exfoliantes sur le corps. Une attention particulière était accordée aux soins des mains. Comme pour le visage, les canons de beauté exigeaient que les mains ne doivent pas montrer l'âge ou la pigmentation. On recommandait un traitement adoucissant, consistant à faire bouillir de la graisse de mouton, de l'huile végétale, un peu de savon et d'ajouter un grain de musc à cette mixture chaude. On devait enduire les mains de cette concoction puis porter toute la nuit une paire de gants. Les ongles étaient tenus courts et légèrement brossés une fois par semaine. Les pensées de Justine s'attardaient sur la fête prochaine dans son bain frais. Elle n'avait vraiment pas eu le temps de chauffer quantité de seaux d'eau ce jour-là. Malgré cela, elle s'offrait un bain pour cette circonstance particulière. C'était un délice, d'autant plus que cette journée de printemps était particulièrement chaude. Elle sirotait l'hydromel qu'elle s'était versé avant de remplir la baignoire. Son père aurait très certainement désapprouvé que sa fille boive toute seule et à cette heure-là de la journée, ce qui la fit sourire et penser au bal de l'année précédente. Son cousin Lucien avait pris soin de garder son verre plein toute la soirée sans qu'elle le voie, et elle avait fini par s'endormir à table, manquant la plupart de l'amusement et de la danse. Cette année, elle ne laisserait pas cela à nouveau lui arriver. Elle se sentait détendue et propre, toute rafraîchie. Justine était une jeune fille de la campagne, certes, mais elle aimait prendre bien soin d'elle et se regarder dans le miroir. Comme une fille de 16 ans, elle était intriguée par l'attirance naissante qu'elle découvrait dans les yeux des garçons. Sur le chemin du marché, avec sa mère, elle remarquait toujours quelques regards insistants, même de certains garçons avec lesquels elle avait joué au bord de la rivière étant enfant. Cette année, les musiciens viendraient d'une ville voisine. Un cousin éloigné du maire d'Aurillac était violoniste et serait ce soir pour l'événement accompagné de ses amis joueurs de cordes, tambours et de guitare, ainsi que de nombreux amis de Vézac. Peut-être rencontrerait-elle un jeune homme et danserait-elle avec lui toute la soirée ? Tout comme sa mère avait rencontré son père à ce même bal 20 ans auparavant, le bal était depuis toujours l'opportunité de découvrir de nouveaux chants et de danser gaiement dans la salle du village éclairée aux chandelles. Des lanternes colorées étaient suspendues au plafond et oscillaient au gré du vent. Les fermiers locaux et les villageois préparaient de généreuses tablées chargées de mets délicieux. Une façon d'invoquer l'abondance pour la saison à venir. Le bal de cette année ne pouvait qu'être extraordinaire, car Germain, un peintre et portraitiste parisien célèbre, résidant dans la région, allait venir et offrir aux invités des portraits au pastel. Henriette avait partagé avec Justine quelques recettes et recommandations de façon à être absolument éclatante pour ce portrait. Justine s'était procuré la semaine précédente, au marché, les ingrédients appropriés. Et elle était désormais prête à les préparer. Les recettes de nettoyants, hydratants et autres soins pour le visage faits à base d'éléments naturels étaient transmises de génération en génération et toujours fréquemment utilisées en France au XIXe siècle. Un simple lavage de la figure pouvait être fait à partir de brandy et d'eau de rose, tandis qu'une formule plus complexe pour hydrater et donner un coup d'éclat à la peau consistait en un masque préparé avec un mélange de farine de pépins de concombre et de melon, de crème fraîche, d'huile de citron et de musc. D'autres soins du visage courant associaient des éléments comme le miel, le son de blé et l'huile d'amande. Toutes sortes de graisses animales ou même des lanières de bœuf cru appliquées directement sur la figure passaient pour d'excellents traitements de nuit, hydratants et repulpants. Comme une peau pâle, très claire, sans tache de rousseur ni autre pigmentation avait la faveur de l'époque, il existait des remèdes populaires pour éclaircir et effacer les taches de rousseur, consistant à infuser de la pimprenelle dans de l'eau de pluie ou à appliquer une mixture de jus de citron, d'eau de rose mélangée à de l'alain ou du lait frais. Le baume à lèvres était communément fabriqué à base de spermaceti, blanc de baleine, d'huile de rose et de cire blanche ou, pour un baume à lèvres teinté, de cire d'abeille et de cochenille ou de pétales de fleurs broyées. Les gens pouvaient se procurer ces ingrédients au marché ou en pharmacie, accompagnés de recommandations sur les recettes. Ils apprenaient aussi les recettes de leur mère ou de magazines féminins et de livres. Le shampoing tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existait pas encore en France au XIXe siècle. Mais les femmes maintenaient la propreté et la brillance de leurs cheveux en les rinçant avec de l'eau et en les brossant quotidiennement. Le lavage avait lieu une fois par semaine, parfois moins, avec du savon ordinaire ou selon des formules maison. Ces formules de lavage nécessitaient généralement des œufs, soit entiers, soit juste les blancs ou les jaunes, suivis d'un rinçage à l'alcool, rhum ou brandy, ainsi que de l'eau ou de l'eau de rose. Parfois un rinçage au vinaigre était pratiqué, ou des rinçages au thé pour une subtile coloration temporaire et pour cacher les cheveux blancs. S'il est vrai que certaines recettes nécessitaient de l'alcool pour le rinçage, il est difficile de savoir si cette méthode était pratiquée dans la France rurale de l'époque et si elle était fréquente. Nous savons que plusieurs impératrices européennes utilisaient du cognac ou du brandy, mais peut-être une fille de ferme se servait juste d'un mélange de savon de Castille, d'œufs et d'eau de pluie. Une recette préconisait d'infuser des branches de romarin dans de l'eau, de conserver cette infusion avec quelques gouttes d'alcool et de se servir de cette formule entre deux shampoings. On n'employait pas le lait de vache pour la chevelure. Comme les parents et les deux jeunes sœurs de Justine étaient déjà à la salle communale, préparant les plats pour la fête, la maison vide se trouvait exceptionnellement silencieuse et Justine se sentit somptueusement seule et adulte. Elle passerait toute la soirée avec ses bonnes vieilles amies, Suzanne et Henriette, qui avaient toutes deux 18 ans. Suzanne était très hardie, parlait aux inconnus, jouait aux cartes et parfois même fumait quand personne ne la regardait. Elle aiderait certainement Justine à briser la glace et à parler avec tout jeune homme qui éveillerait sa curiosité. L'excitation de Justine grandit lorsqu'elle pensa à toute la musique et la danse qui auraient lieu ce soir-là. Danser était ce qu'elle préférait au-dessus de tout, et les deux semaines passées, elle avait répété quelques pas de danse du cotillon avec Suzanne et ses deux sœurs. Pendant que ses cheveux séchaient, vêtue d'une simple sous-chemise, elle sortit sa plus belle robe du coffre en bois dans la pièce principale. Ces dernières semaines, elle avait réparé et amélioré la vieille robe de sa mère tous les soirs près du foyer. Elle avait rajouté un ruban brodé à l'encolure et à la taille, ainsi que de nouveaux boutons qu'elle avait recouverts elle-même de velours bleu. Elle brossa la robe avec soin, ajusta un ourlet et l'étendit sur le lit, toute prête à être enfilée. D'une petite boîte cachée sous une pile de tissus, Justine retira une coiffe à rabat fleuri sur laquelle elle avait cousu un lien en ruban blanc et agrafé une petite épingle en étain pour y attacher une fleur. La cloche de l'église sonna 5 heures. Justine s'assit devant son petit miroir sur la table de la salle à manger pour se coiffer. Les femmes européennes au milieu du 19e siècle gardaient leurs cheveux longs, égalisant occasionnellement les pointes. En coupé de grande longueur était rare et d'habitude uniquement en cas de maladie. Au quotidien, les cheveux étaient souvent divisés par une raie au milieu et dégagés du visage de différentes façons. L'une des plus courantes était de rassembler une ou deux tresses dans un chignon bas et souvent tenu par un filet. Cependant, pour les occasions spéciales, les coiffures pouvaient être plus élaborées. Les rouleaux étaient particulièrement populaires dans les années 1860. Les cheveux étaient enroulés de chaque côté de la nuque avec des rats, qui étaient des postiches faits maison, faits à partir de cheveux récupérés dans les brosses, fournissant du volume ou de la structure. Parfois, le rouleau était façonné en forme d'arc. Les cheveux indomptables étaient lissés avec de la wax pommade, une cire de coiffage, et l'ensemble de la coiffure était fixé à l'aide d'une substance connue sous le nom de bandoline. La bandoline était un liquide collant fait à partir de graines de coing et d'eau, conservé avec des épices telles que le clou de girofle ou avec des essences de rose, de romarin, de citron ou de néroli. Concernant l'application de la chevelure pour le style tressé ou roulé, la méthode préférée était l'éponge, tandis qu'on utilisait les doigts pour les boucles et bouclettes. Enfin, pour des occasions très particulières, les cheveux pouvaient être ornés de bijoux, de rubans et de fleurs, soit en couronne entière ou en fleurs individuelles épinglées sur les rouleaux et les boucles. Pour davantage d'éclat, les femmes plus fortunées pouvaient saupoudrer leurs cheveux d'une poussière obtenue en écrasant des feuilles d'argent ou d'or. La mode de ce procédé était attribuée à l'impératrice Eugénie et à la poudre d'argent qu'elle portait dans ses cheveux en 1860 au Festival du Bœuf Gras. Les femmes du 19e siècle utilisaient un peigne pour démêler leurs cheveux et une brosse pour les maintenir en bonne santé en dispersant délicatement les huiles naturelles du cuir chevelu au reste des cheveux. Un brossage était recommandé 2 fois par jour. Dans les années 1860, les brosses à cheveux commençaient tout juste à être fabriquées mécaniquement. Les brosses faites à la machine n'étaient pas répandues avant 1880. Jusqu'alors, les brosses étaient fabriquées à la main par un artisan. Pour cette raison, on les offrait généralement en cadeau pour des occasions spéciales, telles que mariage ou baptême, mais elles auraient peut-être pu être transmises au sein de la famille. Les brosses de classe moyenne étaient communément faites de bois et de crins de cheval ou de poils de sanglier, tandis que les femmes plus aisées utilisaient des brosses en os et poils de sanglier. Les brosses les plus coûteuses étaient en ivoire ou en os ornées de gravures décoratives ou recouvertes d'une coque et d'une poignée d'argent. Les peignes fonctionnels, ceux utilisés juste pour démêler, étaient faits de cornes ou de métal, tandis que les peignes décoratifs et épingles à cheveux étaient faits d'ivoire, d'écailles de tortue et d'argent. Une fois prête, Justine noua un foulard sur la tête pour protéger sa coiffure en enfilant sa robe. Elle avait été ravie de son temps passé seule à la maison, mais maintenant lui arrivait une chose qu'elle n'avait pas prévue. Qui agraferait sa robe ? Il fallait la boutonner du bas jusqu'en haut, et d'habitude, ses sœurs ou sa mère auraient rempli cette tâche. Elle se tortilla, s'étira, enroula ses bras derrière la nuque, sans succès. Transpirante et légèrement paniquée, Justine essaya encore et encore. Elle tourna sa robe pour que les boutons soient devant et la retourna le dos boutonné, sauf les trois boutons du haut. Il fallait à tout prix qu'elle se rappelle de demander à Suzanne de fermer sa robe. La cloche de l'église sonna 5h30. Elle se sentit soudain pressée. Elle entendit un cheval et une calèche passer sur la grande route, transportant un groupe de personnes qui riaient et parlaient fort. À proximité, un groupe de chevaux et avertisseurs sonores. Peut-être étaient-ce les musiciens de Vézac ? Il fallait absolument qu'elle retrouve immédiatement sa deuxième chaussure. Les normes de beauté au XIXe siècle en France préconisaient d'avoir un air naturel. On préférait un teint pâle et uniforme, les lèvres et les joues légèrement rosées en signe de bonne santé. Le fard gras, c'est-à-dire un maquillage blanc pour le visage, fait principalement à base de plomb et de bismuth, n'était pas utilisé par la plupart des femmes, étant considéré comme gauche et artificiel. Toutes sortes de maquillages épais étaient réservés à la scène. Mais une légère touche de couleur sur les lèvres et les joues, ainsi qu'un nuage de poudre indétectable sur le visage, était acceptable et même dans certains cas, encouragé pour atteindre l'idéal de beauté de l'époque. Pour les occasions spéciales, la plupart des femmes portaient un peu de rouge à lèvres, du fard sur les joues et de la poudre. Le fard en poudre était fait à partir de bois de santal rouge, de safran, d'ocre rouge ou de cochenille, carmin, mélangé à de la poudre de riz ou du talc puis appliqué avec de la laine de mouton. Fait amusant, en 1863, Bourgeois introduisait le premier fard compact en cuisant de la poudre et de l'eau dans un petit moule rond. Le fard existait aussi sous d'autres formes, en pâte, matière colorante mélangée avec de la cire appliquée avec les doigts, en crépon, morceaux de soie ou de coton torsadé imbibés de colorant, trempés dans de l'alcool puis frottés sur le visage, et en feuilles, du carmin sur des petits morceaux de papier épais appliqués en passant un tissu ou une éponge sur le papier puis frottés sur le visage. La poudre était produite à partir d'amidon de pommes de terre, de poudre de riz ou parfois de talc et parfumée avec de la racine d'iris. À la moitié du 19e siècle, ces articles étaient généralement préfabriqués et disponibles comme achat peu coûteux dans les pharmacies ou les officines, même dans les petites villes de campagne. Mais certaines femmes préféraient encore préparer leurs propres recettes qui leur avaient été transmises par les générations passées. Les sourcils et les cils étaient noircis à l'aide d'un bouchon de liège brûlé, de clous de girofle ou de jus de sureau pour les souligner et les rendre plus remarquables. Il était toutefois primordial que les deux apparaissent naturels, surtout les sourcils. Les sourcils trop lourdement maquillés, qui ne suivaient pas la ligne naturelle du front, relevaient encore une fois du domaine du théâtre. La coloration des sourcils était réalisée à l'aide d'un pinceau en poil de chameau et pour foncer les cils, on employait des épingles à cheveux brûlés. Comme pour les cosmétiques, tout parfum se devait d'être subtil, même en France, au milieu du 19e siècle. Les femmes portaient généralement quelques gouttes de parfum, pas à même la peau mais aspergées sur leurs gants ou leurs mouchoirs. La senteur la plus populaire était l'eau de Cologne à base d'huile de néroli, diluée dans de l'eau distillée. D'autres fragrances communes venaient d'essences botaniques simples, telles que la lavande, le clou de girofle, l'encens, la fleur d'oranger et la rose. Surtout Otto de Rose, produit de la fleur Rosa centifolia. Justine en oublia presque la seule raison pour laquelle elle avait eu la permission de rester seule à la ferme pendant que sa famille était partie en avance vers la salle des fêtes. Elle devait retirer de la cuisinière le puntinari, plat fait à partir de restes de pâté, l'emballer et remplir deux bouteilles d'hydromel qu'elle devait emporter à la fête. Suzanne allait venir la chercher d'une minute à l'autre pour faire ensemble le chemin jusqu'au village. Et elle n'avait aucune patience, cette chère Suzanne. Si Justine arrivait en retard pour la retrouver devant le portail, qui sait comment Suzanne réagirait ? Les robes à crinoline volumineuse étaient le style dominant pour les femmes de la classe aisée des années 1860. Si une dame s'aventurait à l'extérieur, la partie du corsage de sa robe était couverte avec un châle ou une étole. La taille et la matière dépendaient du temps, généralement de courts châles en dentelle pour les mois plus chauds et de grands châles en cachemire ou en laine pour les températures plus fraîches. On portait aussi des chapeaux à l'extérieur. Au début des années 1860, on les portait légèrement plus en arrière de la tête et ils étaient dans l'ensemble plus petits qu'aux décennies précédentes pour révéler davantage le visage. Les femmes portaient habituellement des aumônières, petites bourses à cordons, faites en velours ou en soie. Justine put enfin quitter la maison. Elle sortit très prudemment sur le chemin devant la ferme, soulevant le bas de sa jupe, évitant les flaques d'eau et de boue, sautillant d'une pierre à l'autre tout en tenant son panier. Elle vit Suzanne arriver par le chemin ouest. Dieu merci, elle n'était pas en retard après tout. Peut-être était-ce de bon augure pour la soirée à venir ? Les deux jeunes filles se saluèrent avec des rires et des exclamations et commencèrent leur marche vers le village en chantant bras dessus bras dessous. Elles s'arrêtèrent près de la rivière pour cueillir des fleurs d'arnica des montagnes qu'elles placèrent dans les cheveux l'une de l'autre. À l'approche de la salle communale, elles commencèrent à entendre des cris de joie et des applaudissements. Les musiciens venaient tout juste de commencer à jouer. Des effluves de volailles rôties et de gâteaux au miel remplissaient l'air. Justine se sentait plus belle que jamais, se réjouissait d'avance pour ce que cette soirée lui apporterait. L'enchantement de rencontrer de nouvelles personnes, l'acclamation des amis, la danse jusqu'à tard et la vision d'elle-même immortalisée par le portrait de Germain. En entrant dans la salle, elle fut immédiatement entraînée dans la danse par ses amis.
Vous venez d'écouter un épisode des Rituels de beauté à travers les siècles par l'Officine Universelle Bully. Retrouvez prochainement une nouvelle histoire qui vous fera voyager dans le temps. Nos podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.